Radio de la Paix, la grande interview.
Ben Diakité.
Bonjour à tous. Dans le cadre de notre émission La Grande Interview, nous recevons aujourd'hui Madame Marie-Karine Blady. Elle est la présidente du parti Le Nouvel Ivoirien Côte d'Ivoire à Nouvelle, un parti politique né en avril 2018. Pour comprendre les idéaux de ce parti, son positionnement sur l'échiquier national et son projet de société, nous recevons donc cette dame pour nous parler des objectifs et missions de son parti. La Grande Interview, présentation Ben Diakité, réalisée Antoine Kouassi.
Radio de la Paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.
Madame Marie-Karine Blady, bonjour.
Bonjour.
Si je vous demande de vous présenter en quelques mots, qu'est-ce que vous allez me répondre ?
Je suis Marie-Karine Blady, présidente du parti Nouvel Ivoirien Côte d'Ivoire Nouvelle, ivoirienne, mère de deux enfants, épouse, chef d'entreprise parallèlement.
Pourquoi vous avez décidé de créer un parti politique ?
Le parti politique a vu le jour sur l'inspiration d'une forte injustice caractérisée qui m'a, tout au long de ma croissance, emmenée à pouvoir un jour, à un âge adulte et conscient, voilà, créer un parti politique pour rétablir la justice, le droit, l'équité, et ramener aussi, on va dire, l'équilibre social.
Vous avez créé votre parti en 2018. Quand vous créez votre parti, vous avez moins de 40 ans. Un jeune qui crée un parti, pourquoi faire ?
Pour déjà ériger notre pays en un véritable état de droit, premièrement, et remettre l'Ivoirien au centre du développement, voilà, national. Remettre l'Ivoirien au profit de toute économie dont il normalement devrait en jouir et qui en fait défaut parce que le taux de pauvreté est très très élevé et aujourd'hui nous entendons restaurer la Côte d'Ivoire et la vie des Ivoiriens au travers du parti Nouvel Ivoirien Côte d'Ivoire Nouvelle.
Alors derrière l'idée, en vous demandant bien entendu pourquoi est-ce que vous, jeunes, vous créez un parti pour pouvoir exprimer ou pour pouvoir vous permettre d'atteindre ces objectifs, vous aurez pu utiliser d'autres espaces. Mais pourquoi forcément l'espace politique ? Il n'y a pas que l'espace politique. Ça aurait été une entreprise, ça peut être un club de football, ça peut être une ONG, mais vous avez dit déjà, moi, c'est l'espace politique. C'est ce que je voulais comprendre, les motivations réellement.
Oh, ben, vous savez, si je veux comprendre votre proposition à titre de club de jeu, quoi que ce soit, ça serait en miniature. Vous voyez, ça serait juste un pan de l'environnement qui serait profitable, on va dire, mais au détriment des autres. Pourtant, quand je veux me référer à un passage d'un livre saint qui dit comme ça qu'on n'allume pas la lumière et la mette sous le boiseau. En ce moment-là, elle n'éclaire pas. Alors que quand on allume la lumière, on la met au-dessus et elle éclaire tout le monde. C'est dire que quand on a une vision de restauration de la vie d'un individu, il ne faut pas que cela se limite qu'à un seul, mais plutôt à toute la population. Et pour y arriver, il faut être au centre, il faut être à la suprématie, tel un président, pour pouvoir redonner à sa population ce dont elle a réellement besoin. Vous voyez ? Et c'est l'inspiration de la création du Nissin.
On sait que la jeunesse, ça peut être un atout, hein, la force, l'énergie, mais ça peut aussi être un défi, je vais le nommer comme cela, c'est-à-dire défi en tant qu'absence d'expérience. Vous êtes jeune, vous créez votre parti politique, pour exercer le pouvoir public. Avec quelle expérience ?
Oh, vous savez, moi je vous dis merci parce que l'expérience, qu'est-ce que c'est l'expérience ? L'expérience, c'est ce qu'on vit au quotidien. C'est la somme de notre vécu qui devient l'expérience. Alors qu'on n'est pas expert avant d'expérimenter le temps, hein, qui devient pour nous une expérience. Alors que je ne dirais pas qu'il faille, on ait un background qui nous permette. Non, il y a des vertus. Il y a des vertus dont on a besoin pour pouvoir aider. C'est le social. Il y a des vertus dont on a besoin. La première vertu, c'est l'amour. L'amour du prochain. Il faut avoir de l'amour. Et c'est ce qui manque à nos politiques. Voilà. La politique, elle est tellement machiavélique à telle enseigne que ce genre de vertus tellement importante manque. Et quand cela manque, c'est dire que le peuple, il est mis aux oubliettes parce que c'est les intérêts personnels. Aujourd'hui, quand on parle d'expérience, j'ai bien envie de poser la question. Ceux qui ont construit le bateau, là, le Titanic, ils étaient très expérimentés, c'était des professionnels. Voilà, mais contre toute attente, le bateau, il a coulé. Voilà, on nous rappelle aussi l'histoire de Noé qui n'avait aucune connaissance en menuiserie, qui a construit l'arche en plein déluge. L'arche a résisté. Alors, je pense que en termes d'expérience, je suis assez expérimentée de par tous mes voyages, toutes mes positions dans toutes les sociétés auxquelles j'ai pris part. Je pense que l'expérience est là.
Une chose est de créer un parti politique, mais gérer, diriger 30 millions de populations avec des projets de société, de développement, cela demande beaucoup de moyens, beaucoup de ressources. Est-ce que vous pensez que suffisamment, vous avez toutes ces potentialités, à la fois ressources humaines, à la fois ressources techniques, à la fois les réseaux qu'il faut pour pouvoir diriger la Côte d'Ivoire?
Je pense que ça demande premièrement de la rigueur. De la rigueur, c'est de la rigueur. Voilà, parce que aujourd'hui, vous voyez, beaucoup de lois sont votées, mais à peine sont mises en pratique. Pourquoi? Vous verrez que les faits desquels nous nous plaignons aujourd'hui, pour certains, ont déjà été éradiqués, mais n'ont jamais été pratiqués. Pourquoi? Parce qu'il a manqué de rigueur. Je crois que c'est beaucoup plus de rigueur. Après, concernant le volet économique, le volet relationnel, je pense que c'est une complémentarité. C'est une complémentarité, ce n'est pas un déficit. C'est une complémentarité, c'est une obligation, si vous voulez. Alors, tout part de soi. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Si on a un projet aujourd'hui, on voit les ponts sortis de part et d'autre. Ce sont des appels d'offres qui ont été faits. Et puis, les annonceurs les plus intéressants ont été cooptés, ont été mis sur le terrain. Et puis, bon, on voit le résultat de leurs travaux. Je pense que le projet de société que nous avons, nous avons la ligne directive pour pouvoir l'appliquer et la mettre en pratique.
Alors, vous aspirez à quel type de société pour les Ivoiriens?
Comme le dit le nom du parti Nouvel Ivoirien, Côte d'Ivoire Nouvelle. Un Nouvel Ivoirien, c'est un Ivoirien d'une nouvelle mentalité, premièrement. Donc, le volet éducationnel est très, 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 très élémentaire. Voilà, nous devons ramener à l'Ivoirien les valeurs d'éthique morale. C'est pourquoi nous sortons nos ressources des préceptes et des pratiques divines. Parce que tout simplement, un Ivoirien qui n'a pas les valeurs qu'un être normal devrait avoir serait mal dans un développement. Voilà, les principes et préceptes divins sont le profit de tout un chacun, notamment ne pas voler, ne pas tricher. Vous savez, je prends un exemple. Un Ivoirien aujourd'hui qui est sur les bancs et qui a un projet, qui aspire à devenir peut-être ministre demain de la République, est-ce que vous pensez que son projet, c'est d'être ministre et pour aider voilà la société pour... Non, il veut être ministre pour se construire une belle villa, il veut être ministre pour... C'est lui, il s'agit de lui, premièrement. Voilà. Et cela passe par toutes les possibilités, la corruption, la tricherie, tout ce qui serait possible à faire pour qu'il puisse atteindre cet objectif, ben il ferait. Et pourtant, s'il est éduqué, s'il a été sensibilisé sur les vertus, les valeurs humaines qui pourront l'emmener à être ce qu'il voudrait devenir, mais à aussi pérenniser et à être un fruit très juteux au profit des autres. Je pense que nous allons mettre sur pied un programme d'éducation civique. Et cela serait profitable même à l'individu d'Adjamé, hein, comme on dit le Djossé de Nama, en plein travaux hein, avec les YAS, les mini-cars. Voilà, ce programme lui serait utile parce que tout simplement, il faudrait que l'être humain change dans sa nature profonde, dans son éducation de base. Pour certains, l'éducation de base est à zéro, à zéro. Alors, il faut revoir tout cela.
Nous allons poursuivre notre échange avec vous, Madame Karine Blady. Vous êtes la présidente du parti Le Nouvel Ivoirien Côte d'Ivoire Nouvelle. Avec vous, nous parlons de votre parti politique. On sait que très bientôt, la Côte d'Ivoire, notamment dans le mois de septembre, il y aura les élections dites locales, notamment les sénatoriales et puis les municipales. Est-ce que votre parti politique va prendre part à ces joutes électorales?
Bien entendu, nous avons des élus. Nous avons des élus qui sont sur le terrain, qui travaillent, voilà, et qui espérons auront la victoire.
Est-ce que vous avez déjà des élus dans cette législature qui est en cours en ce moment au niveau donc de l'Assemblée nationale ou du Sénat où vous avez des mairies que vous dirigez?
Le Nissin étant né le 5 avril 2018, alors nous prenons part maintenant aux élections à venir.
Sur l'échiquier national, le Nissin se positionne où? Vous êtes plus proche de la droite, de la gauche ou du centre?
Le Nissin est un parti politique de gauche.
De gauche.
Voilà, le socialisme. Notre vision, c'est de mettre l'Ivoirien au centre du développement et de l'intérêt quotidien, du bien-être et de son épanouissement.
Mais aujourd'hui, votre parti politique revendique combien de militants?
Est-ce qu'on peut compter les militants?
Tellement ils sont nombreux ou tellement ils sont absents?
Mais tellement ils sont nombreux. Mais pourquoi ils sont absents? Le parti politique a un écho très favorable sur le terrain. Tout le monde aspire au changement.
Vous n'identifiez pas? Il n'y avait pas de carte de
militants? Nous sommes représentés dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Nous sommes implantés dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Et nous ne finissons pas nos implantations parce que même à ce jour, le premier parti, le PDCI, est encore en implantation. Donc, on n'en finit pas. L'écho du Nissin est très favorable. Très favorable. Et c'est là que vous voyez que les Ivoiriens aspirent à un véritable changement. Ils rêvent d'un changement. Et il faille que ce changement soit de mise. Et ce serait vraiment important, élémentaire, vital même pour la Côte d'Ivoire.
Est-ce que vous avez des activités politiques terrain? Vous partez à la rencontre des populations, expliquez votre projet de société, vos programmes?
Nous revenons, il n'y a même pas une semaine de mars. Voilà où nous étions en contact avec la population sur le terrain. Nous avons échangé des projets que nous entendons réaliser une fois au pouvoir. Nous avons reçu aussi les doléances de ces populations conformément à leur région. Regardez, nous avons été aussi à Biankouma. Vous voyez qu'à Biankouma, quand nous étions, très tôt le matin, je demandais à mon chauffeur d'aller me faire un retrait. Mais malheureusement, il n'y a pas de banque à Biankouma. Il n'y a pas de banque à Biankouma. Et ça m'a scandalisé. Il n'y a pas de banque à Biankouma. Mais comment fait la population? C'est toutes ces choses-là qu'il faut régler. Ça ne coûte absolument rien. Voilà. Quand moi, je bénis, comme je dis, je bénis le Seigneur. Je ne suis pas nécessiteuse. Vraiment, je ne sors pas d'une précarité. Donc, je ne viens pas pour m'enrichir. Voilà. Je ne viens pas pour m'enrichir. Quand je serai au pouvoir, je ne sais pas qu'est-ce que je mangerai que je n'ai pas encore mangé maintenant. Alors, c'est vraiment pour régler tous ces problèmes desquels les autres, n'en font pas cas. Nous sommes sur le terrain et là, c'était l'étape bien commun. La prochaine étape, c'est dans la Niébitiessa.
Alors, quelle est votre solution sur la question du chômage des jeunes? Comment vous entrevoyez de pouvoir régler cette question?
Le problème du chômage, il est simple. Une personne qui est au chômage, il faut lui trouver un emploi.
Comment vous trouvez l'emploi?
Déjà, il faut examiner le contexte qui a mis cette personne au chômage. Il faut connaître les capacités, il faut connaître, parce qu'il y a des personnes qui sont au chômage parce qu'elles n'ont jamais travaillé. Elles n'ont pas de diplôme, elles ne savent rien faire. Alors ces personnes-là, il faut leur emmener soit à faire une formation, ou même si elles ne veulent pas, tout est possible. Il y a toujours une activité qu'on pourrait faire qui serait lucrative. Il faut les orienter, il faut les conduire, il faut les diriger et il faut les positionner. Parce que même la pauvreté, le chômage, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal qu'un être humain vive pauvre. Ça veut dire sans ressources vitales et qui n'ait pas d'activité. C'est pas normal pour la société. Alors c'est des choses qu'il faut régler au plus vite. Les réinsérer. On les réinsère en leur trouvant des emplois, en créant des emplois. En créant des emplois.
C'est l'État qui doit créer des emplois ou c'est le secteur privé? Comment vous allez créer ces emplois?
Mais est-ce que le secteur privé et l'État sont opposés? Il y a plus d'avantages quand le secteur privé se lie à l'État pour pouvoir développer la société. Et c'est plus avantageux. Voilà, c'est plus avantageux. Regardez en Angleterre, un point que j'ai beaucoup aimé, c'est que quand vous arrivez et que vous n'avez rien à faire, il y a ce qu'on appelle « community action ». Vous vous rendez à cette adresse-là et vous avez un carnet comme ça de toutes les activités qui existent. Et on vous laisse le choix de retrouver votre position. Est-ce dans le domaine de l'aviation? Est-ce dans le domaine de la santé? Et quand vous faites votre choix, alors l'État vous introduit dans cette société que vous aurez choisie sur une période. Alors cette période est une période pour vous d'aide et en même temps d'apprentissage. Quand vous ressortez de là, cette société est habilitée à vous donner un document, un certificat. Ce certificat peut vous permettre de travailler. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui ne font rien, mais dont on s'en fout. C'est pourquoi elles ne font rien et elles ne feront rien et elles demeurent comme des chômeurs. C'est pas parce qu'il n'y a rien à faire. Il faut les aider.
Il faut les aider. D'accord. Alors, sur la question de la réconciliation nationale, vous avez dit qu'il faut trouver des solutions à cette réconciliation nationale parce que vous avez vous-même fait appel à des valeurs que vous avez appelées les valeurs divines pour réconcilier la société. Quelle est votre solution par rapport à la réconciliation nationale?
Quand on parle de réconciliation, c'est vrai, on dira, ben, il faut taire les ardeurs, il faut taire vraiment les émotions, les colères et consorts, mais en même temps, c'est difficile. Vous voyez, c'est vrai qu'on oublie, bon, enfin on oublie, on pardonne. Il ne s'agit pas de réconcilier tel acteur politique à un tel autre. Il aura toujours des conflits. Il aura toujours des conflits. Les personnes qui n'entendent pas véritablement oublier ou pardonner sont des personnes qui recherchent du nouveau. Et ce nouveau doit être de mise pour qu'on ne parle plus de réconciliation. Parce qu'en vérité, moi j'ai toujours dit en vérité, qui sont ceux qui sont en conflit? Qui sont ceux qui sont en conflit?
Je vous retourne la question. Qui sont ceux qui sont en conflit?
On parle de réconciliation parce qu'il y a eu des cœurs meurtris. Il y a des personnes qui ont vu leur maison partir en fumée. Il y a des personnes qui ont vu leur famille. C'est tout ça qui ont créé cet état de colère et de dureté et qui font qu'aujourd'hui, les Ivoiriens se regardent en chaîne de faïence. On essaie à qui on en a affaire puisque l'un du parti de l'autre a eu à attaquer l'autre qui serait son parent. Donc, du coup, il n'y a plus de confiance dans la société. Mais aujourd'hui, la réconciliation ne viendra pas parce que l'autre dira non, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Mais est-ce que tu me demandes pardon là, tu vas pas le refaire? Il y a la crainte. La crainte, elle demeure.
Oui, parce que, mais il y a d'aucuns qui disent quand même que la société fonctionne, les gens vont au travail, le développement a repris, les actions sont posées, les Ivoiriens vivent au quotidien et que dans tout état normal, que petit problème entre les individus, mais que sinon il n'y a pas de grosses fractures sociales.
Il y a plutôt des blessures. Il y a des blessures. Aujourd'hui, vous venez de dire que la vie a repris son cours, et voilà, le développement, mais il n'y a pas véritablement de vie. Ça veut dire quoi? La solidarité, la symbiose, l'amour que connaissaient les Ivoiriens d'antan, ça a disparu. Il n'y a plus vraiment la fraternité qu'on avait avant. Et on ne l'a plus. Aujourd'hui, la vie, elle est comme artificielle, elle est difficile. Mais elle est difficile. Il n'y a pas de... La vie sociale, elle est pauvre. Notre vie sociale est pauvre. Les Ivoiriens sont perdus. Ils ne se retrouvent plus. Mais quand on est heureux, on profite du développement. Mais quand on n'est pas heureux, le développement est comme un poids. Vous savez, l'Ivoirien, je ne veux pas parler de la généralité, mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas un peuple qui cache ses émotions. Les Ivoiriens se seraient réjouis autrement. Ils s'en contentent. Ils s'en contentent parce que leur quotidien n'est pas compatible à l'évolution territoriale. Quotidiennement, ils vivent difficilement. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui est pauvre, mais même ceux qui ne sont pas si pauvres que ça, est-ce qu'ils font cas de ceux qui sont pauvres? Il n'y a pas d'équilibre. Quand je parle de l'Angleterre, aujourd'hui, l'Angleterre, regardez, ils ont développé le côté charity, charité, caritatif. Ça veut dire que même quand ce n'est pas tout le monde qui est si aisé, mais ceux qui sont aisés aussi ont un œil, un regard d'aide envers les moins aisés, les démunis. Donc du coup, la société arrive à se mêler entre elles.
Alors, Madame Karine Blady, Marie-Karine Blady, quelle est votre solution par rapport donc à une plus grande présence des femmes et des jeunes sur l'échiquier politique?
Oui, mais écoutez, moi je pense que tout ce dont vous venez d'énumérer trouve leur source dans l'éducation dont nous parlions. Si la femme, dans son éducation, a reçu l'information qu'elle est bien pour le ménage, elle est bien pour se soumettre à son mari, pour s'occuper des enfants, faire la cuisine, mais elle ne peut pas s'affirmer. C'est une éducation, c'est une sensibilisation. Pour que la femme puisse s'affirmer, il faut qu'elle puisse se connaître. Il faut qu'elle puisse savoir qu'elle est capable de changer son environnement, pas seulement sur le plan du ménage. Parce que en tant que femme, Marie-Karine dit aux femmes de se lever. Mais avant que les femmes ne se lèvent, il faut qu'elles aient la connaissance de leur identité. Quand je parle de leur identité, c'est pas l'identité d'être femme, mais c'est l'identité d'être intelligente, de pouvoir changer les choses, de pouvoir garder et changer l'image de sa société. Voilà. Et je pense que une fois Marie-Carine au pouvoir, cela serait pas un travail à faire, mais cela galvaniserait toute une communauté, toute la gente féminine à croire en elle-même. Voilà, concernant la jeunesse, moi je pense que la jeunesse est un atout qu'il faut vraiment accompagner pour le développement de notre pays, parce que elle est porteuse de grands talents, de gros talents qu'il faut mettre au profit de la nation. Et donc il faut aussi passer par la sensibilisation des jeunes, aider les jeunes à avoir confiance en eux-mêmes et à se mettre sur le terrain. Tout est une question de personnalité.
Madame Karine Blady, au moment où cet entretien va prendre fin, quel est votre mot de fin par rapport à tout ce que nous avons dit aujourd'hui sur le positionnement de votre parti et les objectifs que vous vous êtes assignés?
Alors, je dis merci à Dieu pour cette occasion qu'il m'ait fait de pouvoir partager avec les Ivoiriens et la communauté internationale la vision du parti du Nissin pour le développement et le changement des vies de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Alors, sur la base de cela, j'informe et je porte ce message aux Ivoiriens qui est de croire à une Côte d'Ivoire nouvelle, de croire à un Ivoirien d'une nouvelle mentalité, de croire à une Côte d'Ivoire restaurée, à une Côte d'Ivoire d'un train de vie assez facile et accessible dans son rêve, hein, dans le rêve de tout un chacun, de croire que c'est encore possible et cela arriverait. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.
À mes auditeurs, je vous remercie. Dans le cadre donc de l'émission La Grande Interview, nous avons reçu donc Madame Marie-Carine Blandit. Elle est la présidente du parti Le Nouvel Ivoirien Côte d'Ivoire Nouvelle. Avec elle, nous avons parlé donc de son projet de société, des objectifs de son parti politique, du positionnement de son parti politique sur l'échiquier national. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et on va se dire très très bientôt à la fin des élections pour parler et commenter les résultats de votre parti, le Nouvel Ivoirien Côte d'Ivoire Nouvelle. Je vous remercie.
Merci.
Vous venez de suivre La Grande Interview.